Une grève massive face à la réforme des retraites prévue aujourd'hui à la RATP. C'est la plus forte mobilisation sur le réseau des transports parisiens depuis 12 ans. 10 lignes de métro à l'arrêt, pas de service minimum assuré. Anne-Laure Jumet nous expliquera pourquoi.
Google va payer près d'un milliard d'euros au fisc français pour fraude fiscale.
Ce n'est pas une condamnation, mais le fruit d'un accord entre Bercy et le géant américain. Explication à suivre avec Antoine Marette. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Trois anciens ministres ont été entendus cette semaine.
Et puis en Afrique du Sud, un appel a manifesté aujourd'hui contre les violences faites aux femmes.
Le mouvement prend de l'ampleur ces dernières semaines pour dénoncer notamment les 3000 féminicides qui ont lieu dans le pays chaque année. Nous irons à Johannesburg. Et puis pour la première fois dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle, tous les candidats étaient réunis sur le plateau télé hier soir. C'était au Texas, les favoris se sont neutralisés, nous dira Grégory Phillips. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, aux États-Unis, on réfléchit à interdire la cigarette électronique. Faut-il s'inspirer de cette réflexion américaine? Je poserai la question à Marion Adler, elle est médecin et tabacologue.
1 milliard d'euros, c'est ce que Google va verser à la France pour solder ses contentieux fiscaux. C'est ce qu'a annoncé hier le géant américain dans le cadre d'une convention validée par le tribunal de Paris, adossée à un accord avec Bercy. Cet accord met fin aux poursuites pour fraude fiscale aggravée engagée en 2015 par le parquet national financier. Antoine Marette.
Il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. C'est par ces mots que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, avait ouvert la voie en 2017 à un accord transactionnel avec Google. Le géant américain était poursuivi depuis 2015 pour fraude fiscale aggravée par le parquet national financier. Il était accusé de minorer ses revenus perçus en France via des montages complexes afin de réduire ses impôts. Son siège européen est situé en Irlande, un des pays où l'impôt sur les bénéfices des sociétés est le plus faible au monde, mais Google a toujours assuré respecter la législation française. Alors cet accord est-il une reconnaissance de culpabilité ? Non, répond Google. Il s'agit, selon l'un de ses avocats, maître Antonin Lévy, d'aller de l'avant et de régler une fois pour toutes ces contentieux passés. Sauf qu'en signant cette convention, Google reconnaît que les faits qui lui sont reprochés correspondent au délit de fraude à l'impôt sur les sociétés et achète sa tranquillité au prix fort. 500 millions d'euros d'amende qui lui permettent d'éviter un procès ou une procédure de plaidé coupable. 465 millions d'euros pour mettre un terme aux procédures de redressement fiscal engagées par Bercy. Ça n'est pas la première fois que Google passe ce type d'accord avec un pays. L'entreprise a également déboursé plusieurs centaines de millions d'euros, notamment au Royaume-Uni et en Italie, pour obtenir un abandon des poursuites.
Antoine Marette, au chapitre des fraudes fiscales, c'est aujourd'hui que sera rendu le jugement du procès Balkany, portant notamment sur les 4 millions d'euros d'impôts impayés. Le parquet avait demandé l'incarcération immédiate du maire de Levallois-Perret. On y reviendra dans le journal de 7h30 sur France Culture. Une grève d'une ampleur inédite depuis 12 ans a lieu aujourd'hui à la RATP contre la suppression annoncée des régimes spéciaux de retraite et l'instauration d'un système universel par points. 10 lignes de métro sont fermées, très peu de RER et un bus sur 3 en moyenne devrait circuler en Ile-de-France. Il faut remonter à 2007 pour une mobilisation comparable et le mouvement contre la réforme des régimes spéciaux sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En 2007, où une obligation de service minimum dans les transports publics avait été inscrite dans la loi. Quelles en sont les conditions? Éléments de réponse avec Anne-Laure Jumet.
Cette loi sur le service minimum dans les transports impose aux grévistes de se déclarer 48 heures avant leur mobilisation. L'entreprise peut ainsi élaborer son plan de transport et elle doit délivrer une information précise et fiable 24 heures avant le début du mouvement. Mais ce texte ne permet pas la réquisition du personnel, contrairement à ce qui se pratique dans les hôpitaux en cas de grève. À cette loi, il faut ajouter le contrat qui lie la RATP à Île-de-France Mobilité qui gère le réseau. Et là, il y a un engagement de la Régie des transports parisiens d'assurer pendant une grève, au moins 50% du service lors des heures de pointe. Objectif toutefois intenable, dit-on à la RATP, qui ne dispose pas d'assez de conducteurs vu l'ampleur de la mobilisation. Dans certains services, on attend près de 90% de grévistes. Alors y aura-t-il par ailleurs un remboursement des voyageurs? Non, prévient déjà Île-de-France Mobilité. Argument invoqué, les frais de traitement et d'envoi seraient presque aussi élevés que les quelques euros à rembourser.
à Nord-Jumet. Hier soir, sur le plateau de TF1, le Premier ministre Édouard Philippe a défendu le principe d'un système universel des retraites. Interrogé aussi sur la mise en examen du président de l'Assemblée nationale pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, Édouard Philippe estime que Richard Ferrand ne doit pas quitter le perchoir.
Je crois qu'il peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions. Et puisque vous me posez la question, permettez-moi de dire, non pas en tant que Premier ministre au président de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'Édouard Philippe à Richard Ferrand, l'amitié qui est réelle que je lui porte, le soutien qui est total et la confiance que j'ai dans sa capacité à faire valoir son innocence lorsqu'il pourra le faire devant un tribunal. Je vais reprendre les mots de M. Mélenchon, ce n'est pas forcément mon habitude, mais Jean-Luc Mélenchon a raison de rappeler que la présomption d'innocence dans une démocratie, ça existe. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que magistrat, j'ai ensuite été avocat. Ces mots ne sont pas des mots vides de sens. Si nous voulons préserver, pas simplement pour tel ou tel élu, pour l'ensemble de nos concitoyens, un système d'état de droit, il faut reconnaître la présomption d'innocence. Elle vaut pour Richard Ferrand, ni plus ni moins que pour n'importe quel autre citoyen.
Édouard Philippe au journal de 20h de TF1 hier. Alors que cette semaine, trois anciens ministres ont été entendus par la police dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Une affaire qui avait éclaté en 2017. Élodie Guéguin, vous avez pu accéder au dossier judiciaire.
Il contient un florilège de témoignages d'anciens assistants, mais aussi de députés centristes qui affirment que le MoDem aurait siphonné des fonds européens pour payer ses propres salariés. Les policiers l'écrivent noir sur blanc dans un rapport que nous avons consulté. Les constatations permettent de penser que le MoDem a cherché à réduire à tout prix ses charges financières et que les enveloppes des députés européens étaient pour cela une opportunité. Une pratique qui aurait même pu être institutionnalisée, écrivent les policiers qui sont remontés très loin dans l'histoire du centre droit. Certains des assistants recrutés par le mouvement de François Bayrou dans les années 90 racontent avoir occupé des emplois fictifs à l'Assemblée ou au Sénat, mais dans les faits, ils travaillaient pour le parti politique. Ça va même plus loin. Les policiers se demandent si la numéro 2 du MoDem, Marielle de Sarnez, n'a elle pas utilisé des assistants européens pour ses affaires personnelles. Une de ses collaboratrices l'a affirmé devant les enquêteurs. J'étais sa gouvernante. Je m'occupais des travaux de sa maison en Grèce, de son abonnement pour le gaz. Le travail fourni pour le Parlement européen était dérisoire, selon elle.
Élodie Guéguin, une enquête menée pendant 2 ans avec Sylvain Tronchet. Enquête qui sera à écouter en longueur ce soir dans le journal de 18h sur France Culture.
7h07, la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont. En Afrique du Sud, les manifestations se multiplient contre les violences faites aux femmes.
Avec 3000 femmes tuées par an, le pays possède des statistiques parmi les plus inquiétantes au monde. Un mouvement a vu le jour il y a quelques semaines pour demander des actions fortes de la part du gouvernement. Un sit-in est prévu aujourd'hui à Sandton, le quartier d'affaires de Johannesburg, pour demander à ce que les grandes compagnies financent la lutte contre ces violences. Reportage de Claire Bargelès.
Suis-je la prochaine ? Se demandent les Sud-Africaines, choquées depuis plusieurs semaines par l'assassinat d'une étudiante de 19 ans dans un bureau de poste du Cap. L'émotion suscitée a permis de réveiller les consciences et de mettre l'accent sur la situation des femmes dans le pays, selon Mandisa Kanile, organisatrice du sit-in.
Toutes les 8 heures, une femme est tuée par son partenaire. Cela veut dire que l'on perd 3 femmes par jour. Cela atteint des proportions effrayantes. Moi-même, j'ai été violée, donc je suis directement concernée.
Cette réalité était jusque-là souvent passée sous silence, mais il faut la marteler haut et fort selon Puno Selecho, poétesse qui écrit sur ces sujets.
En tant que femme vivant en Afrique du Sud, les probabilités que vous soyez abusée, violentée sont tellement élevées que l'on vit tout le temps dans la peur. Et on connaît toutes des gens à qui cela est arrivé parmi la famille, les amis.
Des voix se sont élevées pour réclamer la mise en place d'un état d'urgence, voire le rétablissement de la peine de mort pour les auteurs de ces crimes. Mais pour Nancy Kelelompulo, de l'organisation Section 27, il faut que les lois déjà existantes soient mieux appliquées.
We cannot support the death penalty.
On ne peut pas être en faveur de la peine de mort, ce n'est pas quelque chose que l'on réclame. Mais il y a des lois qui disent que les auteurs de viols, par exemple, risquent la prison. Apparemment, les magistrats ne les appliquent pas suffisamment. Section 27 veut appeler le monde judiciaire à traiter ces cas avec le sérieux qu'ils méritent.
Sur le seul mois d'août, mois de la femme en Afrique du Sud, 30 d'entre elles ont été assassinées par leurs compagnons, soit une par jour.
Claire Margelès à Johannesburg pour France Culture. Reporters sans frontières a décerné hier 3 prix pour la liberté de la presse, 3 prix à 3 lauréates, notamment le prix du courage remis à Ayman al-Nafjan, journaliste saoudienne qui se bat pour les droits des femmes. Elle ne peut plus sortir du pays, risque jusqu'à 20 ans de prison. Et Caroline Muscat, prix de l'indépendance pour son média d'investigation en ligne The Shift News, créé juste après l'assassinat il y a 2 ans de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia. Nous entendrons Caroline Muscat dans le journal de 8h sur France Culture. Aux États-Unis, le 3e débat dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 s'est tenu cette nuit à Houston, au Texas. 10 candidats sur scène. Pour la première fois, les candidats en tête des sondages, Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, pouvaient se confronter sur une même scène, le tout diffusé sur la chaîne ABC. À Washington, Gregory Phillips.
Un peu moins de 3 heures de débat et un personnage qui occupe beaucoup de place. C'est Donald Trump, attaqué, critiqué. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, a même cette formule dans les premières minutes.
Houston, we have a problem.
Houston, nous avons un problème. Puis les candidats déroulent, le système de santé, les armes aux États-Unis, l'immigration, le changement climatique. À la 40e minute, l'ancien ministre du logement d'Obama, Julian Castro, paraît très agressif quand il s'en prend à Joe Biden avec des sous-entendus douteux sur son âge, 76 ans. Est-ce que vous avez oublié ce que vous venez de dire il y a tout juste 2 minutes? Même les autres candidats paraissent surpris par la violence de l'attaque. Mais finalement, Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren se neutralisent. L'ancien vice-président d'Obama est émouvant quand il évoque ses drames personnels. La mort de son épouse et de sa fille au début des années 70 dans un accident de voiture, puis celle de son fils Beau, bien des années plus tard, d'un cancer. Les candidats moins bien placés dans les sondages s'en tirent plutôt bien. Le Texan Beto O'Rourke, le maire de South Bend, Pete Buttigieg ou encore l'homme d'affaires Andrew Yang parviennent à prendre la lumière. Prochain débat dans 1 mois, le 15 octobre. Il y en aura 12 au total. La route vers l'investiture démocrate est encore très longue.
Grégory Phillips, la météo, de la pluie le long des côtes de Normandie, Bretagne et sur le nord, du soleil dominant partout ailleurs. Les températures sont comprises entre 17 et 27 degrés. 17 à Amiens, 20 à Paris, jusqu'à 27 degrés à Nice.